Père, vous nous avez parlé de ce film M, le troisième secret. Vous nous avez expliqué la demande de Marie, le cri de Marie de consacrer la Russie à son cœur immaculé. Alors ça, on l'a bien compris. Est-ce que c'est que ça, hein, le secret de Fatima? Ou est-ce que ça mérite d'être développé? Est-ce que le réalisateur nous a bien fait comprendre? Qu'est-ce que vous en dites?
Ah, eh bien, écoutez, le réalisateur, il a fait tout ce qu'il a pu, il a fait un travail. Tout le monde est d'accord de dire ça, un travail génial. C'est vrai, un travail génial. On est scotché, quoi, quand on voit son film. Que Marie s'est apparue et jeté un grand cri à la terre en disant, il faut consacrer la Russie à mon cœur, immaculée et douloureux, c'est pas un secret, puisque tout le monde le sait, ça. Donc, si Pierre Barnérias a fait ce film, c'est pas pour dire quelque chose qui n'est pas un secret, mais pour dire le secret, qui est le troisième secret. Parce qu'il y a eu un premier secret, il y a un deuxième secret, il y a eu un troisième secret. Comprenez? Par exemple, le premier secret, le deuxième secret, vous savez ce que c'est? Le deuxième secret, c'est quand la Vierge a mis les mains comme ça, a ouvert le sol, devant les yeux des trois enfants, et ils ont vu le fond du Tartare, un feu très très profond. Et le secret, c'est que les enfants ont vu, et la Vierge leur a montré qui était. Elle a montré les visages, les personnes qui se trouvaient éternellement en enfer. C'était un tapis d'évêques et de prêtres qui étaient en enfer. Les enfants, pour eux, un prêtre, un évêque, c'est pour eux pas bah, l'enfer. C'est un secret. Si vous êtes, elle a révélé qu'on pouvait être prêtre et en même temps être Judas. C'est le deuxième secret. Le troisième secret, c'est un autre secret. Et c'est pas, il faut consacrer la Russie. Ça, c'est pas un secret puisque tout le monde le sait. Ça n'a jamais été considéré comme un secret. Vous comprenez? Donc, Pierre Barnérias s'est dit, c'est quoi ce troisième secret? On va essayer de faire une enquête. Et je fais une enquête. Je vais dans le monde entier et je vais voir qu'est-ce qu'il y a. Je vais recréer un puzzle. Je reconstitue la mosaïque. Je dis, voilà, je vais essayer de dire, je vais essayer de trouver, d'expliquer et de faire que le cri de Marie à la terre puisse être connu dans son troisième secret.
Et alors, est-ce qu'il nous explique, est-ce qu'il a bien développé le sujet ou pas?
Ah, oh, mais il a fait ce qu'il a pu. Il a fait ce qu'il a pu. Il a fait ce qu'il a pu. Et donc, il a été, la Sainte Vierge, bon, si elle dit une chose à Lucie de Fatima, elle en a déjà dit un certain nombre d'autres choses, ou identiques d'ailleurs, à Saint Jean avant son Assomption. C'est dans l'Apocalypse, c'est dans la Bible. Elle en a déjà fait dire par son ange au prophète de l'Ancien Testament, et c'est dans le livre de Daniel, elle a parlé abondamment de toutes ces choses. Et Jésus aussi, dans son évangile, où il y a quand même à peu près 123 versets qui parlent de ces fins dernières, qui sont dans le secret de Fatima. Mais c'est donc dans la Bible, c'est dans la doctrine de l'Église, les pères de l'Église, le Saint-Esprit, la Sainte Vierge en a parlé à des saints. Voilà, et ça a donné toute la doctrine des fins dernières, des temps. La fin des temps, non pas la fin du monde, mais la fin des temps, chez les docteurs de l'Église. Vous prenez par exemple uniquement saint Thomas d'Aquin, tous les traités sur les fins dernières de saint Thomas d'Aquin, où beaucoup de choses, énormément de choses, sont parfaitement décrites. Bon, ça c'est un travail que par exemple n'a pas fait Pierre Barnérias, parce que c'est pas un spécialiste de la doctrine, hein, de la doctrine. Mais il y a aussi des apparitions de la Vierge à d'autres que à Mélanie de la Salette ou à Lucie de Fatima. Voilà. Et elle est apparue depuis 1917 en particulier, elle est apparue à Akita au Japon, en Espagne, à Conchita, à Marie Cruz, Jacinta. Et Garavanda, c'est en Espagne, c'était pendant le Concile. Et à d'autres choses, à dans d'autres lieux qui sont pas du tout condamnés par l'Église, donc on peut en parler, je veux dire. Si on est prêtre, on peut en parler. Et lui, il a fait ses enquêtes. Et à travers ces différentes apparitions, eh ben, il y a eu un rappel. La Vierge a rappelé ce qu'elle avait déjà dit concernant le troisième secret, c'est-à-dire les fins dernières. L'humanité arrive à ses fins dernières. Donc il y a un challenge, un appel pressant à tous les chrétiens, à tous les baptisés, à l'Église catholique, au Saint-Père, à tous les évêques du monde, de faire ce qu'il faut, d'être prêts et d'utiliser toutes les armes de la sainteté, de l'humilité, de la chasteté, de la pureté, de l'obéissance, de tous les fruits des sacrements pour passer victorieusement ce cap. Tout le monde sait que c'est évidemment le Christ dans son Église qui sera victorieux de tout, mais pas si on ne se réveille pas. Donc la Sainte Vierge réveille tout le monde. Voilà, c'est le troisième secret. Donc voilà. Alors, et voilà. Et donc, le troisième secret, c'est quoi, en vérité? C'est la description de ces jours de ténèbres, cette confrontation finale, ultime, avec les forces du mal, de destruction, de mort, de guerre, d'apocalypse au sens négatif, qui risque d'être une détresse terrible si jamais elle n'est pas présente pour en faire une grâce merveilleuse. Et on doit la rendre présente pour transformer ce qui pourrait être une détresse terrible, une guerre eschatologique totale, une destruction de toutes les innocences d'une manière effroyable, en grâce délicieuse, immaculée, pacifique, victorieuse. Voilà. Et c'est ça. Et donc elle dit, attention, voilà ce qu'il va y avoir. Cette guerre eschatologique finale, cette troisième guerre mondiale, en fait, est la guerre ultime, où tous les éléments du cosmos, tous les éléments de la matière, tous les éléments spirituels, tous les éléments cosmiques, tous les éléments angéliques aussi, tous les éléments diaboliques, vont être confrontés avec tous les éléments militaires aussi, bien sûr, hein, le psychotronique, l'atomique, etc. C'est une description de tout ça. Alors, est-ce que Pierre Barnérias a bien mis à jour la description que le troisième secret de Fatima donne de ce qui va se passer comme jour de ténèbres, de châtiment, si jamais il y a trop de Judas dans le monde? C'est pour ça que le troisième secret complète le deuxième. Il dit, attention, voilà, vous êtes des successeurs des apôtres, vous êtes des prêtres, vous êtes tous les baptisés sont des prêtres mystiquement, spirituellement, vous êtes responsables de ce qui va se passer. Donc il faut qu'on soit très très unis dans un seul corps mystique, spirituel. Voilà, depuis que la foi est apparue pour la justification des hommes, donc depuis Moïse, depuis Abraham, jusqu'à maintenant, et pour que ça s'épanouisse dans l'épanouissement de la Jérusalem spirituelle, immaculée, pacifique et glorieuse. C'est vous qui êtes le témoin et c'est vous qui êtes les instruments de ça. Voilà le secret. Voilà le secret, si je puis dire. Voilà l'explication du fond du secret. Mais le troisième secret, tel que Pierre Barnérias, lui, il essaie d'expliquer la description que Marie a faite des détresses effroyables qui auraient lieu si on n'était pas à la hauteur. Donc c'est un secret conditionnel. Voilà pourquoi d'ailleurs le Saint-Père, le Pape, etc. a préféré ces conditionnels. On n'en parle pas parce que ça fera plus peur que de réveiller les bonnes volontés immaculées, d'innocence triomphante, de la grâce victorieuse de la foi.
Donc en fait, quand il n'en parle pas, il sait ce qu'il fait.
Ah ben, si le
Le
Pape,
pape.
quand il n'en parle pas,
Il sait ce
oui.
qu'il fait. Il mène ce combat, mais dans
Il
l'ombre
dit,
en
on va
fait.
mener ce combat, mais on va donner tous les éléments pour attirer l'attention de tout le monde
Oui,
vers
voilà,
ce qu'ils doivent
il
faire.
sait ce qu'il
Ils doivent se
fait.
tourner, par exemple, vers Marie, mère de l'Église. On doit se tourner du côté de l'unité des chrétiens. On doit se tourner du côté de cette reconnaissance d'avoir été planté sur l'arbre et l'olivier franc de la grâce messianique juive, comme l'explique l'épître aux Romains. Et on va quand même arrêter de se diviser. On va écouter ce que dit Jésus sur la croix, qu'il soit un, qu'il soit un. Et que ma tunique ne soit pas déchirée. Et que le cri silencieux de mon union hypostatique déchirée, lorsque tout se déchirera, donne le Saint-Esprit, l'eau, l'immaculation et la paix, plutôt que la détresse et les ténèbres. Donc voilà, c'est comment est-ce que voilà, et puis enlever aussi les derniers obstacles à faire qu'il y ait cette unité. Voilà, non pas dire voilà, il faut, et puis alors que je n'ai pas enlevé les derniers obstacles. Ouais, s'il n'y a pas d'unité de la Pâque, c'est pas normal. Voilà. Alors du coup, Birbanéas, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui restait quoi? Eh ben, il lui restait pour alerter un petit peu le monde entier. Il dit, voilà, regardez le drame qui se présente à nos portes. On n'est pas loin maintenant. Le délai de 100 ans après l'apparition de 1917 va arriver quand même. 1916, on y est. Donc, mes chers amis, frères de l'humanité, catholiques, chrétiens, orthodoxes, vous avez dit on s'en fiche pendant 99 ans, mais moi je fais un film pour dire faut plus s'en fiche maintenant. Il y a une description du coup des châtiments qui vont tomber sur la terre parce qu'on n'a rien fait.
Et ça sera quoi ce châtiment?
Ah, c'est quoi ces châtiments? Ah ben justement, c'est là que le film est intéressant, parce que c'est quoi ces châtiments? Ces fameux jours de ténèbres. Alors, moi je me rappelle une chose qu'on avait interrogé, il a suivi le fil, hein, pour savoir ce qu'il y a dans ces châtiments qui doivent venir. Hein. Et le fil qu'il a pris, c'est très intelligent d'ailleurs, c'est très futé, c'est dire, voilà, je vais aller voir d'autres personnes qui ont eu les mêmes descriptions, mais c'est pas Fatima. Hein. Voilà. Alors, par exemple, moi j'ai connu Conchita, qui d'ailleurs est exactement mon âge, Conchita Garabandal, et
Elle est encore
non,
vivante.
oui, elle est encore vivante. Oui. Et on disait justement avec elle, j'avais été la voir là-bas à sa maison à Fatima, elle a une maison à Fatima, elle habite à New York normalement, j'étais la voir à Fatima. Et elle disait, voilà, quand on a interrogé Lucie de Fatima, on disait, mais pourquoi vous dites pas le troisième secret? Vous pourriez le dire, vous, puisque ça fait depuis 1960 que ça devrait être connu dans le monde entier. Pourquoi vous le dites pas? Elle dit, mais c'est pas la peine que je le dise, puisque la Sainte Vierge a donné intégralement la description du troisième secret de Fatima à Garabandal. Il suffit d'aller voir ce qu'elle a dit à Garabandal. Du coup, on sait ce qu'il y a dans le troisième secret de Fatima. Et par exemple, à Garabandal, la Vierge dit, il va y avoir l'ouverture du cinquième sceau de l'Apocalypse. Hein, c'est quand vous lisez l'Apocalypse, les coupes de la colère et les sept coupes de la colère de Dieu, c'est-à-dire les coupes de la colère de Dieu, ça veut dire que quand Dieu voit le mal, tout de suite, il déverse le sang miséricordieux qui se met en colère contre le mal pour l'anéantir et le faire disparaître. Mais si les coupes sont renversées, ah, je rends impuissant, si je puis dire, les effets pacificateurs de la miséricorde du sang de Jésus. Il le sauve du mal, quelqu'un. Il empêche le démon de venir faire ces choses horribles. Et l'ouverture du cinquième sceau de l'Apocalypse, c'est quoi? C'est la victoire révélée par Saint Jean, que l'Église finalement va quand même, dans un sursaut, crier, non Seigneur, pitié, pitié, pitié pour ceux qui t'abominent, pitié pour cette dévastation, pitié, pitié, et redonner la coupe à la manière de la Jérusalem spirituelle immaculée. Voilà. Et si on ne le fait pas, alors évidemment, tous les éléments embrasés, il va y avoir des châtiments, il va y avoir des avertissements, il va y avoir des signes, des prodiges, des miracles, des choses effroyables aussi qui vont se produire. À Garabandal, finalement, par exemple, la Vierge explique aux enfants, il va y avoir l'avertissement, le grand miracle et le châtiment, les 3 jours de ténèbres.
C'est quoi ça, cet avertissement et tout ça?
Alors, ces trois-là, c'est ce qu'on a. Oui, c'est quoi? Justement, c'est
Oui,
ça le
c'est
secret de
quoi?
Fatima, c'est quoi? Si jamais on ne fait pas ce qu'il faut, alors il va y avoir ces 3 jours de ténèbres. C'est châtiment, et c'est ça le secret de Fatima. Alors là, les éléments embrassés, les océans, les météores, les hommes effrayés, les hommes. Enfin, on a ces descriptions-là aussi dans l'Évangile, quelquefois. Les hommes préféreront mourir que de rester vivants. Ce sera pire qu'au temps de Noé, quoi. Voilà. Mais à Carabanda, on nous a bien dit, si les hommes se convertissent, s'ils retrouvent la pureté du oui originel d'Immaculée Conception dans leur conception à eux, s'ils s'aiment tous dans l'unité, alors à ce moment-là, les 3 jours de ténèbres peuvent être évités. Il y aura ce grand miracle, c'est-à-dire une très grande force qui va venir dans tous les enfants de Dieu, en un seul peuple, en une seule grâce, si je puis dire. Il y aura une très grande grâce qui va être donnée dans l'unification du peuple de Dieu en une seule Eucharistie, une seule Pâque, une seule supplication. Le retour d'Élie et d'Enoch, de témoins de l'Apocalypse. Très grande force qui émane du paradis déjà oublié, hein, des temps perdus. Et du coup, l'évangile sera annoncé à toute la terre, dans toutes les nations, dans tout le monde intérieur, de tout l'univers intérieur, de tous les hommes sans exception. L'évangile sera annoncé. Et ça va commencer par une demi-heure sur toute la terre. Une demi-heure d'arrêt, d'une effusion, d'une ouverture des temps qui va redonner aux hommes la possibilité de dire
D'accord.
non au châtiment, de dire non à Lucifer, de dire non à Satan. Donc, premièrement, il y a quelque chose qui fait qu'on fait un très grand péché, une transgression ultime de toute l'humanité pour donner tout le pouvoir à Satan et à l'Antéchrist sera fait. Et puis, il y aura la réaction. Si la grâce nous a été faite par le Saint-Esprit pour dire pitié, demander pardon et rentrer dans le fruit des sacrements unanimement, tous les successeurs des apôtres et le corps mystique de l'Église tout entière. Et à ce moment-là, effectivement, toutes les forces nous seront données. Il y aura une espèce de suspension pendant une demi-heure. C'est ce qu'on appelle l'ouverture du cinquième sceau de l'Apocalypse. Il y aura l'avertissement. Cet avertissement va donner cette possibilité à toutes les libertés de retrouver toute leur puissance originelle dans tous les hommes, 7 milliards d'êtres humains en même temps, dans la
Donc
même demi-heure.
il faudrait se préparer alors pour
Il
cet
faut se préparer à
avertissement.
cet avertissement, bien
Oui, il
sûr.
faut parce qu'en fait les grâces qui seront envoyées, il faut être en état de les recevoir un peu.
C'est la grâce de l'Église, en fait. Cinquième
Oui,
sceau,
oui,
cinq, c'est la grâce.
oui.
C'est le chiffre de la grâce. La grâce va être, faire que l'Église va être elle-même dans l'indivisibilité de la toute-puissance de son investibilité par rapport au mal. Et là, l'Église, c'est nous. Donc, il faut qu'on se prépare à savoir que nous sommes la génération où l'Église doit manifester la victoire de l'agneau de Dieu par rapport au mal. On va se préparer à cette oraison, cette transformation où Dieu va surgir et faire naître l'Immaculée Conception dans notre conception, dans notre corps originel. Ça va durer une demi-heure. On va retrouver toutes nos libertés originelles primordiales à état pur. Et du coup, on va se retrouver avec un seul troupeau, un seul pasteur. Du coup, l'évangile sera annoncé à toute la terre, l'union hypostatique de Jésus, l'Immaculée Conception, la Jérusalem glorieuse, tout ça ne fera plus de, ça ne fera de souci à personne. C'est-à-dire, on va pouvoir enfin rentrer librement, librement, volontairement, saintement, et continuellement, et corporellement, dans tous les fruits des sacrements. Il y aura une transformation qui va durer des années, des années, des années. Si on rentre pas dans cette conversion, si on ne prend pas la force qui nous sera donnée à ce moment-là, ensuite dans le grand miracle, alors à ce moment-là, ça c'est l'avertissement, c'est un peu comme une conception. Le grand miracle, c'est un peu comme une naissance. C'est un peu comme une nativité. Si on rentre pas dans cette nativité pour grandir pendant 19 ans, hein, si je prends 19 ans, c'est symbolique, n'est-ce pas? Eh bien, à ce moment-là, si on rentre pas tout de suite, si dès la conception, on préfère mordre l'équivalent du péché originel, avant notre naissance. Et si on préfère ne pas naître comme l'Immaculée Conception, exempt de cette transgression suprême finale, eh bien à ce moment-là, il y aura immédiatement le châtiment. Et le châtiment, c'est quoi? Et c'est ça le troisième secret de Fatima. Le châtiment, c'est quoi? Les 3 jours de ténèbres, c'est quoi? Ça va consister en quoi? Voilà. Alors ça, c'est les éléments embrasés. Vous avez fait ça dans l'épître de Saint-Pierre. Hein. Les éléments embrasés qui vont dissoudre tous les des guerres effroyables, mais effroyables, effroyables, des on le sait, Paris, par exemple,
Mais la Sainte Vierge, elle a décrit tout ça.
oui, Paris, par exemple, la capitale de la France, entièrement détruite par le feu. Il n'y aura pas un survivant. Il y aura, je sais pas moi, les océans vont se soulever sur des centaines de mètres de hauteur et engloutir des centaines de millions de gens sur les côtes. Il va y avoir les croûtes terrestres vont se déchirer. Il va y avoir des trucs, enfin voilà, les descriptions, sans compter bien sûr l'invasion des démons, presque visiblement. Au milieu des hommes, ils vont être terrorisés. Beaucoup de gens vont mourir de terreur et de peur. Et les 3 jours de ténèbres, on ne verra pas la lumière du soleil pendant 3 jours sans s'arrêter. Et pendant ce temps, tous les démons auront tout pouvoir sur la terre. Etc. Donc ces descriptions-là, ben, elles sont données à la Vierge, à ses enfants de Fatima. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Donc, bon, le pape, il a dit oui, bon, on le sait bien, mais c'est quand même conditionnel. Donc, le pape, il dit, je cache le secret, puisque nous allons faire ce qu'il faut. Et si, on va faire ce qu'il faut. Et du coup, ils font le Concile Vatican II pour faire ce qu'il faut. Il faut faire ce qu'il faut. On consacre Marie et on proclame avec le pouvoir des clés, au ciel et sur la terre, que Marie, désormais, peut intervenir directement, efficacement, dans le temps de la terre. Le pape décide ça. Et du coup, on se réunit aux orthodoxes, on leur dit, on arrête de leur dire, vous êtes des hérétiques, on leur dit, vous êtes des successeurs des apôtres. Et c'est bien qu'il y ait des successeurs des apôtres que nous nous joignons à eux parce qu'ils représentent, ils représentent la grâce messianique, eux, ils représentent la grâce apostolique, eux, ils représentent, voilà, nous allons nous rejoindre, nous allons nous comprendre. Si par exemple, les orthodoxes disent, nous ne sommes pas d'accord dans le credo de l'Église catholique que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Voilà, vous avez la première personne et la deuxième personne de la Très Sainte Trinité qui disparaissent l'un dans l'autre et de là émane l'Esprit Saint qui émane aussi bien de la première que de la deuxième personne puisque c'est l'unité des deux qui s'efface l'une dans l'autre qui fait l'émanation. Les orthodoxes disent, vous ne pouvez pas dire ça. Arrêtez de dire ça. Nous ne sommes pas d'accord avec vous. Nous ne sommes pas d'accord avec vous. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas d'accord avec nous? Pour y poser la question.
Pourquoi?
Ah, voyez, vous me posez la question, voyez. J'en étais sûr que vous alliez me poser la question.
Allez-vous la poser?
Oui, c'est ça, mais bien sûr. Vous alliez me la poser, c'est pour ça
Oui,
que
jamais.
je vous voyais vous brûler les lèvres, mais vous êtes formidable quand même. Hein. Ah oui.
N'est-ce pas?
Ah oui. Parce que l'Église, elle dit que le Saint-Esprit procède de l'unité du Père et du Fils, et quand elle dit ça, elle dit vrai. Et quand les orthodoxes disent c'est faux, ils disent vrai aussi. Vous trouvez ça compliqué?
Ben oui, parce que chacun reste
Parce
dans
que
sa
chacun
vérité.
regarde d'une manière
Ah,
différente,
c'est ça.
c'est tout. Mais si on regardait tous les deux de la manière de l'autre, si on s'aimait,
Ah oui,
on
ça
verrait
serait
chacun la
plus.
manière de l'autre de le
Oui,
dire.
et du coup, ça
Voilà.
serait plus
Alors, nous, la
commun.
manière de l'autre, nous, on dit, voilà, c'est très simple. Les pères grecs, vous êtes les pères grecs, au 8e siècle, donc il y a 1300 ans, à peu près, les pères grecs, les pères orthodoxes, Constantinople, en Saint-André, Saint-Jacques, ils disaient quoi? Ils disaient, dans la Très Sainte Trinité, la première personne est époux, la seconde personne est épouse. Et il y a entre les deux une grâce d'épousailles, de sponsalité. Et dans la sponsalité, elles se lisent toutes les deux, disparaissent l'une dans l'autre. Et c'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est l'Esprit Saint. Donc ça vient des orthodoxes, ça. Et bien, quand on dit le Père et le Fils, de leur unité, quand ils disparaissent d'amour l'un dans l'autre, émane le Saint-Esprit, nous disons des choses qui ont été dites uniquement par les pères orthodoxes et pas par les pères latins catholiques. Donc on a voulu répéter ce que vous avez dit, par exemple. On peut dire ça. Mais alors pourquoi vous dites, on est d'accord avec vous aujourd'hui quand vous dites que notre formulation dans le credo n'est pas parfaitement exacte. On est d'accord avec vous. On est d'accord avec vous pourquoi? Parce que si vous dites que le Saint-Esprit émane de l'unité du Père et du Fils, quand on dit, lisez saint Thomas d'Aquin, et quand on dit Dieu le Père et Dieu le Fils, c'est la première procession dans la Très Sainte Trinité. La première procession dans la Très Sainte Trinité, c'est une procession de lumière. Et à ce moment-là, on dit que la première personne, c'est le Père, et la seconde personne, c'est le Fils. Lumière née de la lumière. Or, à l'intérieur de la Très Sainte Trinité, il y a deux processions dans la Très Sainte Trinité. Une procession de lumière et une procession de spiration, une procession d'amour. C'est les tout premiers conciles de l'Église, Éphèse, Constantinople, Chalcédoine, etc. Hein? Ça, c'est commun, hein, tous les successeurs des apôtres. On était tous présents, il n'y avait aucune division à cette époque-là. Hein? Hein, au 5e siècle, il n'y avait aucune division. Concile de Nicée, Constantinople, Chalcédoine, aucune. Donc il y avait deux processions à l'intérieur de la Très Sainte Trinité. Quand tu dis quel est le nom de la première personne de la Très Sainte Trinité dans la première procession de lumière, on lui donne le nom de Père, de principe. Quel est le nom qu'on donne à la deuxième personne de la Très Sainte Trinité dans la première procession de lumière, on lui donne le nom de Fils, engendré de lumière, né de la lumière, le Verbe de Dieu. Ah, mais lorsque ces deux personnes se trouvent dans la deuxième procession, qui est une procession d'amour, eh bien, on les appelle sponsalités, on les appelle époux et épouses. Et donc, quand on dit que le Saint-Esprit procède, et de cette procession d'amour procède le Saint-Esprit. Ça, c'est sûr. Donc, quand on dit qu'il procède du Père et du Fils, ah non, parce que Père et Fils, c'est la première procession. En fait, c'est la deuxième procession, mais c'est bien les deux personnes, les deux premières personnes. Donc, merci beaucoup de nous avoir résisté pour qu'on puisse désormais dire ensemble ce que vous disiez déjà au 8e siècle. Qu'on a répété, mais comme on était divisé, on l'a dit partiellement en attendant qu'on puisse le dire unanimement, qu'effectivement, le Saint-Esprit procède d'une manière sponsale de l'époux et de l'épouse à créer en Dieu. Là, on le dit de manière parfaitement orthodoxe, et finalement, tout le monde est d'accord.
Qu'est-ce qu'ils disent exactement comme terme, les orthodoxes?
Les orthodoxes, ils disent, voilà, c'est Saint Athanase, pas Saint Athanase, Saint Anastase, qui dit, voilà, le Père envoie son Fils dans la mission invisible sur la terre, et quand le Fils est rentré dans le sein du Père après l'ascension, le Père envoie l'Esprit Saint. Le Père envoie d'ailleurs l'Esprit Saint en Marie pour que de l'Esprit Saint puisse être conçu le Verbe de Dieu dans le Christ. Donc, c'est vrai que c'est le Père qui envoie. Le Père est l'origine de l'envoi des missions invisibles des personnes divines dans notre temps et dans notre âme. Mais ça, l'ordre des processions invisibles dans notre âme et dans notre temps, ça, c'est vrai que c'est le Père fait procéder le Fils, il envoie son Fils, et le Père envoie l'Esprit Saint par le Fils, par le Fils.
C'est la même
Et c'est
chose.
le Père qui envoie, c'est pas l'unité
Je
du Père et
comprends.
du Fils. C'est le Père qui envoie, mais là, ce n'est pas la Très Sainte Trinité dans les processions avant qu'il y ait des envois, des missions, des personnes divines dans les âmes. C'est deux aspects complémentaires, différents, qui ne regardent pas par le même aspect le mystère de la Très Sainte Trinité. Bref, toujours est-il que faut pas dire que c'est totalement impossible de résoudre les problèmes. Tout le monde est d'accord. Il suffit simplement que le pape et puis le patriarche Athanagoras disent bon maintenant ça suffit. Hein. C'est nous qui le disions ça. Hein, et c'est les époux et épouses, c'est nous qui le disions. Hein. Donc maintenant avec le pape est tout à fait d'accord de dire mais bien sûr c'est pas dans la première procession. Le premier qui dira c'est sûrement pas dans la première procession, c'est les catholiques. Ils sont tous d'accord avec saint Thomas d'Aquin. C'est pas dans la première procession, mais dans la deuxième procession qui allait la procession du Saint-Esprit. Il n'y a aucun problème. Il suffit de faire un simple discours, ça suffit. Là, pour le coup, il suffit de faire un bout de papier, c'est fini. C'est rien. C'est rien. C'est de la poussière. c'est zéro. Mais si on s'aime,
Voilà.
si on célèbre dans la
C'est bon.
Pâque l'unique cœur de Marie, dans l'amour,
Ce
à
sera
ce
tout
moment-là,
seul.
tout le reste
Oui,
s'efface.
oui.
L'avertissement vient, c'est-à-dire l'ouverture de Zagabso, et du coup, ça y est, cette grâce de plénitude, de liberté apparaît. Et du coup, les 3 jours de ténèbres sont écartés. Ils sont écartés, mais ils reviendront quand même parce que on ne peut pas effacer, il faut que l'écriture s'accomplisse. Ils vont arriver au jour où l'Antéchrist apparaîtra. Parce que l'évangile va être proclamé à toute la terre, et ça va durer quand même quelques années, avec le grand saint, l'immensément grand saint des temps qui s'ouvrent, avec le royaume du règne du Sacré-Cœur, du monde nouveau. Et après, l'Antéchrist va vouloir au dernier moment donner un dernier coup de queue sur la puissance de Satan pour prendre possession de cette unité mondiale de grâce messianique cosmique et pour se et pour se magnifier lui-même avec en faisant croire qu'il est le Christ en séduisant la terre tout entière et en se manifestant in extremis pendant 1290 jours. À ce moment-là, oui, les éléments déchaînés pourront se produire, les 3 jours de ténèbres vont l'engloutir lui-même en enfer.
Et ça sera fini.
Et
Oui,
ça, le
oui.
père Bernerias, qu'est-ce que vous voulez, c'est vrai. Il comme il connaît pas la doctrine infaillible du Saint-Père, de l'Église catholique, et de l'Église apostolique, sur les fins dernières, pourtant c'est connu, la doctrine sur les fins dernières, c'est dans l'Évangile, c'est dans les saints, il y a toute une doctrine. Je me rappelle que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle connaissait que 2 bouquins par cœur, c'est l'Imitation de Jésus-Christ, dont on ne connaît pas l'auteur, et les fins dernières du Père Armand Jean. Elle dit, j'ai eu trois fois des torpeurs d'extase surnaturelle parfaite, c'est en lisant le livre du Père Armand Jean sur les fins dernières. Voilà,
Oui.
écoutez-moi, est-ce que j'ai
Ben
bien répondu à vos questions? Je sais pas.
c'est bien, c'est beaucoup plus clair avec vous quand même.
Ah, mais, oui, c'est plus
Si,
clair,
c'est
merci
bien,
beaucoup, je suis
c'est
très
écrit.
honoré que vous soyez. Enfin, c'est clair parce que tout le monde dit que je suis un peu lourd.
Une étoile.